Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Dernier temps de notre semaine consacrée aux nouveaux grands jeux dans l'espace post-soviétique, après avoir évoqué lundi l'attraction qu'exerce l'Europe sur les marges orientales de l'Union européenne, et puis mardi le rôle de la Russie dans la signature d'un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, et enfin hier l'influence grandissante de la Chine dans la région, intéressons-nous aujourd'hui à l'islamisme et à l'utilisation politique de l'islam dans ces anciennes républiques soviétiques.
Il a d'abord tiré une fois. On s'est dit que c'était un type en colère, ou ivre. Mais quelques secondes plus tard, on a entendu une arme automatique.
Selon la presse turque, les autorités seraient sur la piste d'un suspect originaire d'Asie centrale, peut-être ouzbek ou kirghize.
Face à cet acte tragique, nous ferons tout pour savoir ce qui s'est passé et l'enquête explorera toutes les pistes. Aussi bien criminel que terroriste.
L'individu neutralisé était porteur d'un titre de séjour intéressé de nationalité russe et d'origine tchétchène, bénéficiait du statut de réfugié et demeurait évreux dans l'heure.
On a vu se succéder ces dernières années à Istanbul, Saint-Pétersbourg ou encore Paris des attentats perpétrés par des terroristes originaires du Caucase ou d'Asie centrale, laissant craindre l'émergence d'un nouveau foyer du djihad mondial dans cet espace post-soviétique. Mais derrière cette crainte sécuritaire se jouent aussi des enjeux liés à l'utilisation de l'islam à des fins politiques. Avec des dirigeants autocrates qui se réclament de versions locales et ouvertes de l'islam tout en exerçant une répression brutale à l'égard de son opposition, et de l'autre, des opposants qui, en retour, s'appuient sur l'islam pour organiser la lutte, quitte à en épouser les formes les plus radicales et à verser dans le terrorisme. En effet, objet de renouveau identitaire au moment de la création de nouveaux états-nations sur les ruines de l'URSS dans les années 90, l'islam a rapidement été perçu comme une force à canaliser par des dirigeants politiques de la région qui, sans chercher à promouvoir la laïcité, se sont appliqués à soumettre la religion au pouvoir politique et à tenir à distance toute influence religieuse étrangère. Alors comment cette influence étrangère, justement saoudienne, turque ou encore iranienne, parvient-elle à se frayer un chemin au sein de l'islam, de Russie, du Caucase et d'Asie centrale, malgré le strict contrôle politique dont il fait l'objet ? Quel est le rôle des migrations internes à l'espace post-soviétique dans l'émergence d'une tentation djihadiste dans cette zone? La situation de la Tchétchénie, très marquée par deux guerres des années 90-2000, constitue-t-elle une exception régionale? Ou au contraire, le miroir grossissant d'une réalité partagée? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Sylvia Serrano. Bonjour Sylvia Serrano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, politologue, professeur à l'université Sorbonne, aujourd'hui en poste à Abu Dhabi, d'où vous nous parlez. Je vous remercie d'être avec nous. Avec nous également, depuis Istanbul, c'est Bayram Balcho. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. On sait que les anciennes républiques soviétiques ont été des réservoirs importants pour Daesh et malheureusement, l'actualité nous montre tristement que c'est toujours le cas. Quelle menace sécuritaire représente selon vous cette Asie centrale? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est la région, la principale menace terroriste? On va commencer avec vous, Sylvia Serrano.
Alors bon, la question que vous posez est en réalité plus une question à poser à des organes de sécurité. Hein, identifier quelle est la principale menace terroriste, c'est certainement hors de mes compétences de politiste. En revanche, peut-être tout de suite, en effet, hein, vous avez souligné le fait qu'il y avait de nombreux ressortissants des pays, disons, de l'ex-Union soviétique, qui ont commis des actes de violence. Je voudrais peut-être juste commencer par rebondir sur un point que vous avez évoqué en introduction, en parlant des attentats en Turquie, en Russie, à Saint-Pétersbourg notamment, vous avez évoqué en Europe. Et peut-être faudrait-il quand même ajouter que l'essentiel des violences qui sont commises l'ont été en Asie centrale, au Caucase du Nord pour ce qui est de la Russie, hein, et c'est-à-dire dans une région qui a a connu la guerre. Donc il est difficile de déconnecter complètement les violences qui sont commises à l'étranger des violences qui ont été commises dans un théâtre guerrier. C'est le premier point. Le second point, c'est que en effet, et ça aussi je pense qu'on aura l'occasion avec Behram de revenir sur la chronologie en réalité de ces violences il est important en effet de montrer les évolutions. On s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans une géographie. Et la phase dans laquelle on est depuis quelques années, on a probablement plus été il y a même quelques années, on est en effet dans une phase de transnationalisation avec un certain nombre militants qui commettent des actes au-delà des frontières.
Je vous en prie. On va faire, Sylvia Serrano, vous avez raison de le rappeler, ce travail qui consiste à retracer cette évolution depuis la chute de l'URSS, parce qu'effectivement, il y a des évolutions et il y a une géographie dans l'évolution de cette violence-là. On va évidemment essayer de faire ce travail-là. Bayram Mathieu, sur la question sécuritaire, il se trouve qu'évidemment, on en a beaucoup parlé ici en France, le meurtrier de Samuel Paty était un jeune homme d'origine tchétchène. Alors, je sais bien qu'il n'y a jamais vécu. N'empêche que visiblement, il était toujours un peu imprégné par ce contexte politique, puisque sur les réseaux sociaux, il s'en était pris à Ramzan Kadyrov et à l'islam prôné par le président tchétchène, en l'occurrence un islam soufiste, qui est un mouvement ésotérique de l'islam réputé modéré. Vous pouvez nous expliquer, Bayram Baltcheu, justement, à quoi ressemble cet islam soufiste d'un Kadyrov et en quoi est-ce qu'il rentrerait en contradiction avec l'idéologie salafiste portée par Daesh, Bayram Baltcheu?
Oui, bonjour. Je commencerai par souligner un paradoxe, un phénomène que nous, chercheurs, on n'arrive pas à expliquer, et je crois qu'il faut être honnête et le reconnaître, c'est qu'en fait, il y a un paradoxe qu'on n'a pas expliqué, qui est que ce soit en Asie centrale ou dans le Caucase, on a affaire à des sociétés sécularisées, marquées par une longue domination russe soviétique, des sociétés qui sont pas très islamisées, où l'islam est très relatif, vous savez, une pratique religieuse qui n'est pas très importante, et malgré ça, on trouve malheureusement une présence assez importante de combattants originaires de l'Asie centrale et du Caucase qui ont été actifs en Syrie, en Irak, avec Daesh et qui ont commis des attentats à Istanbul. Vous vous souvenez, la discothèque de Rena, c'était un Kirghiz. En France, on a vu aussi, en Angleterre aussi. Donc il y a un paradoxe. Et il y a un paradoxe et qui permet probablement de comprendre aussi, de faire presque une déconnexion entre l'islam, l'islamisme et le radicalisme. Alors ça peut paraître difficile à justifier, mais en même temps, on a le sentiment, en fait, que ce n'est pas uniquement parce qu'il y a un islam et un islamisme qu'il y a des attentats et des attaques terroristes, c'est aussi parce que il y a aussi un contexte social de dislocation du lien social, et notamment pour ceux qui ont travaillé sur la migration, le phénomène de migration de Caucase et d'Asie centrale en Russie, on a le sentiment, en fait, qu'il y a une espèce de lien social qui a été perdu, dans un contexte de migration et parfois aussi de rejet, il faut le dire. Donc il y a un recours à la violence, y compris, et ça c'est un paradoxe aussi, y compris chez ceux qui se revendiquent d'un certain islam soufi, où on a l'habitude de penser que le soufisme, le mysticisme est contre l'islam radical et contre l'islamisme. Mais là, en fait, c'est-à-dire que c'est aussi le lien entre pauvreté, migration et exil qui fait qu'on a malheureusement ce genre de phénomène et qui existe aussi bien en Asie centrale que dans le Caucase. Et je pense que pour expliquer le paradoxe dont je parlais tout à l'heure, il y a pas d'explication si ce n'est de dire que de faire référence à tous les problèmes sociaux que peuvent connaître ces migrants quand ils partent de chez eux.
Oui, vous avez raison de rappeler l'importance de ce déracinement, parce qu'en réalité, quand on regarde les choses, le profil, les parcours des combattants de cette Asie centrale partis en Irak et en Syrie, on se rend compte qu'en réalité, ils ont été recrutés précisément dans des pays qui ne sont pas leur pays d'origine. Donc ça joue évidemment à plein. Sylvia Serrano, si on regarde un peu la question de la Tchétchénie, on est quand même dans un contexte politique et religieux tout à fait particulier, où on a un président qui prêche un islam local, traditionnel, réputé plus ouvert et plus modéré, voire même plus respectueux des libertés individuelles, tout en réprimant toute autre forme d'islam, et en particulier l'islam salafiste dont se réclament les combattants de l'État islamique. On est dans un pays aussi dans lequel son président, en l'occurrence Ramzan Kadyrov, qualifie Emmanuel Macron de chef de file des terroristes et où il pousse à la mobilisation contre les caricatures de Mahomet, aux côtés d'autres pays qui, eux, précisément prône un islam salafiste. Donc on voit qu'on est en Tchétchénie dans une terre de contradictions totales en matière religieuse. Comment Kadyrov parvient-il à tenir ensemble toutes ces contradictions, Sylvia Serrano?
Mais en réalité, le terme même d'islamisme et d'islamiste est pas nécessairement très analytique et ne nous permet pas nécessairement de comprendre justement la complexité de ce qui se joue en fonction des arènes dans lesquelles on se situe. Donc effectivement, on peut considérer qu'on est dans un niveau très global, disons dans une vision binaire entre d'un côté un islam salafi, d'un autre un islam dit soufi. Mais en réalité, c'est intéressant de regarder ce qui se passe à différentes échelles, à l'échelle purement tchétchène, à l'échelle nord-caucasienne, à l'échelle de la Russie, à l'échelle internationale, parce que ces oppositions sont complètement différentes selon ces niveaux. En Tchétchénie même, il y a deux confréries soufis qui sont très présentes depuis en fait l'islamisation de la Tchétchénie, et ce à quoi s'attache Kadyrov, c'est de constituer une des confréries soufis en une espèce de religion nationale dans une logique de construction de l'État et aussi dans une logique clientéliste pour asseoir son pouvoir personnel. Donc là, on est dans une entreprise purement politique de construction nationale et d'assise d'un pouvoir personnel. L'appartenance à une confrérie soufie vous met dans le rang des musulmans modérés n'a absolument aucun sens. Ces catégories, là encore, sont purement des catégories politiques. Et de fait, si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la Russie, pas simplement de la Tchétchénie, il y a une catégorisation des religions. Et dans le cadre de l'islam, les deux catégories officielles qui se sont imposées, c'est l'islam dit traditionnel, qui peut avoir des déclinaisons extrêmement différentes selon les régions de Russie dans lesquelles on se trouve, et l'islam qualifié de radical, qui, lui, va être de plus en plus pénalisé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on en vient à une situation où est qualifié d'islam traditionnel un islam qui est en réalité l'islam coopté par les autorités russes, et l'islam dit radical, qui est un islam qui se place dans une certaine contestation de l'ordre politique. Donc, ces assignations, ce sont des assignations qui viennent du pouvoir et qui sont absolument déconnectées de ce que l'on pourrait considérer comme de la modération, si tant est qu'il existe une modération religieuse, et surtout qui sont complètement déconnectées de la question de la violence, et complètement également déconnectées de la question d'une vision plus conservatrice des mœurs. On va trouver et chez les partisans des confréries soufis et parmi les tenants de l'islam dit radical des courants extrêmement variés, allant des plus obscurantistes à des courants qui voient la pratique comme un mode d'émancipation personnelle. Donc il faut vraiment se méfier, disons, des catégories politiques et de calquer les catégories d'analyse sur les catégories politiques.
Ouais, vous êtes d'accord, Mayra Malcho, il ne faudrait pas penser que si on prend par exemple le cas de la Tchétchénie, on a d'un côté des musulmans soufis qui seraient des partisans nécessairement de Kadyrov et de l'autre des musulmans salafistes qui eux seraient des opposants politiques. C'est bien plus compliqué que ça, Bayram Baltcheu.
C'est effectivement beaucoup plus complexe en fait dans ce que disait Sylvia tout à l'heure. Effectivement, on a le sentiment en fait que les autorités politiques, que ce soit dans le Caucase ou en Asie centrale, elles ont décidé de développer une forme d'islam, donc l'islam national qui accepte d'être soumis au pouvoir politique en place. Et cet islam traditionnel, on l'encourage, on le développe, même si en termes de religion, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. En termes de théologie, ça n'a pas beaucoup de sens de le présenter comme tel. Et de ce fait, tout ce qui est islam contestataire, ou pas forcément contestataire fort, c'est-à-dire qui ne veut pas se reconnaître dans la ligne qui lui est donnée par le pouvoir en place, eh bien, automatiquement, il est taxé de radical, de salafiste, de wahhabite, avec une utilisation un peu abusive de chacun de ces termes-là, et qui en réalité voudrait dire en fait qu'ils sont en opposition avec le pouvoir parce qu'ils voudraient vivre leur islamité, leur islam d'une particule, d'un autre mode, d'une autre façon, d'une autre manière, et ça c'est quelque chose qui déplaît parfois au pouvoir, mais le pouvoir il faut aussi le comprendre parce qu'en fait il y a une telle angoisse par rapport au phénomène du radicalisme qui existe dans des pays voisins, et pas pour ce qui est de l'Asie centrale, je crois que ça a été l'Afghanistan qui a tétanisé en quelque sorte les esprits. Donc on a peur qu'un islam non contrôlé, dès qu'il est dans l'opposition, forcément il va aboutir à un radicalisme, à un djihadisme. Et c'est aussi quelque chose, c'est ce qui les inquiète. Mmh. Et parfois c'est aussi un moyen, un prétexte pour ne pas adopter des réformes politiques, parce que ça permet au pouvoir de rester au pouvoir longtemps et de ne pas partager le pouvoir, malheureusement.
C'est exactement ce que disait Kadyrov il y a quelques années à propos du wahhabisme. Je vous propose de l'écouter.
Je veux lutter contre tous les wahhabites. Ce sont des terroristes. Je veux le faire jusqu'à la fin de mes jours. Ce sont les ennemis de l'islam et du peuple. Leur place est en prison, 3 mètres sous terre.
Sylvia Serrano, je vais vous faire réagir sur donc ce propos de Kadyrov et sur la représentation qu'il propose du wahhabisme. Et puis on va essayer de voir ce qu'est l'influence réelle du wahhabisme et de l'Arabie Saoudite dans cet islamisme. Dans cette Asie centrale, dans cet espace post-soviétique. Vous avez écrit un article très intéressant dans lequel vous rappelez qu'en 2016, Grosny avait accueilli des dizaines de théologiens sunnites, dont le grand imam d'Al-Azhar, dans le cadre d'un colloque qui visait à définir ce qu'est le sunnisme. Une initiative qui peut quand même apparaître comme un peu étonnante quand on sait que le pouvoir justement de Tchétchène, lui, s'appuie sur cette vision soufiste, locale. Et il y a un document qui en était sorti, expliquez-vous, dans lequel était tout simplement expliquer que les wahhabites étaient dans l'erreur du point de vue théologique. Ça, c'est pour la version modérée. La version plus radicale, on vient de l'entendre avec Kadyrov. Ce sont des terroristes, disait-il. Il y a plusieurs questions là-dedans. D'abord, pourquoi est-ce que Grosny organise un tel événement? Est-ce qu'il s'agit aussi de se placer, au fond, comme leader d'un espace soufiste, nationalisé, régional? Pourquoi cette attaque en règle du wahhabisme saoudien? Et puis on verra le rôle, justement, de l'Arabie saoudite dans la montée en puissance de cet islamisme politique en Asie centrale. Sylvia Serrano, beaucoup de choses, mais on a un peu de temps.
Oui, alors là évidemment, hein, la citation là, de Kadyrov que vous présentiez, elle est vraiment très très intéressante parce qu'elle montre toutes les ambiguïtés de ce que représente Kadyrov, et y compris les ambiguïtés par rapport à Moscou, les lignes rouges, au-delà de quelles lignes rouges Kadyrov peut aller par rapport à Moscou. Évidemment, quand un leader aussi écouté que Kadyrov, aussi écouté à l'étranger, que Kadyrov assimile les wahhabites à des terroristes, on peut immédiatement imaginer les conséquences que ça va avoir pour la diplomatie russe dans ses relations avec l'Arabie saoudite. Et de fait, quelques mois plus tard, Ahmed Kadyrov a été dépêché en Arabie saoudite, où on a assisté quelques mois plus tard à une réconciliation assez impressionnante de la Russie et de l'Arabie saoudite. On voit bien qu'il y a le discours, il y a un type de discours, et puis derrière, il y a eu, malgré tout, une reprise en main, disons, de la diplomatie russe et Kadyrov qui a été intégré dans cette diplomatie. Donc il y a ce niveau international. Au niveau international, ça permet à Kadyrov, en effet, de toujours dans la négociation avec Moscou, de passer par l'international et par l'image qu'il se crée à l'international, lui permet de négocier un pouvoir plus important en Russie. Or, se présenter un discours anti-wahhabite va, au final, plaire à beaucoup de musulmans au-delà des frontières de la Russie et faire apparaître Kadyrov pratiquement comme une réincarnation d'un leader, disons, de ce qu'auparavant on appelait le tiers-monde, anti-occidental et contre les alliés au sein du monde musulman de l'Occident que seraient les Saoudiens. Donc, il reçoit un écho auprès de très nombreux musulmans au-delà de la Russie. En même temps, en Tchétchénie même, Kadyrov est le fils de son père. Son père était le moufti de Tchétchénie qui avait apporté son soutien aux indépendantistes durant la Première Guerre et qui avait été, au contraire, pris le parti de la Russie dans la Seconde Guerre, justement au moment où, en Tchétchénie même, la guerre s'islamisait et, au final, on avait assisté à des affrontements entre des groupes armés soutenu par des confréries soufis et des groupes armés venus de l'extérieur et qui revendiquaient une proximité ou disons une affiliation salafite. Là encore, ces termes de wahhabite, salafite, ce sont des termes qu'il faut comprendre dans leur contexte politique et qui peuvent varier considérablement selon les époques et selon le contexte. Donc de ce point de vue-là, si on regarde le jeu purement interne à la Tchétchénie, effectivement, c'est une lutte de pouvoir entre différentes factions. Et comme je le disais, donc Kadyrov réinvente une confrérie soufie, hein, ou une branche, hein, disons, d'une confrérie qui est la Kuntaraji, pour en faire vraiment le fondement même du récit national tchétchène. Et donc, en interne, ces discours anti-wahhabites, ils s'inscrivent dans cet espace discursif-là. En Russie même, le wahhabite n'est pas le wahhabisme, mais le salafisme en Russie n'est pas interdit. Et d'ailleurs, même en Ingouchie voisine de la Tchétchénie, il y a des imams qui se définissent comme salafites. La question, là encore, même au niveau régional, elle est en réalité extrêmement complexe. En Russie, ce qui est interdit, ce sont des organisations, ce sont pas des courants. Donc vous pouvez interdire telle ou telle organisation qui va être considérée comme extrémiste, et c'est d'ailleurs aussi assez intéressant de voir ce qui est considéré comme extrémiste et selon quels critères une organisation est considérée comme extrémiste, mais pas un courant. Donc le salafisme n'est pas interdit. Et il y a eu des tentatives d'interdire le wahhabisme, par exemple au Daghestan voisin, il y a des tentatives en Tchétchénie, mais c'est aujourd'hui contraire à la constitution de la Fédération de Russie.
Bayram Balche, alors peut-être vais-je vous faire aussi intervenir sur le wahhabisme, mais on pourrait aussi faire un jeu de miroir avec la question de l'influence de la Turquie. On a vu combien, évidemment, Erdogan essayait de se placer, en tout cas utilise l'islam à des fins politiques et essaye même lui aussi de se placer comme, en tout cas, leader religieux, peut-être est-ce un peu exagéré, mais en tout cas, on voit qu'il utilise l'islam et qu'il s'était mis aussi à la tête de cette fronde anti-Macron autour de la question du blasphème. Et en même temps, on sait aussi que il y a eu des affinités, pour le moins, en tout cas, une certaine bienveillance de Ankara à l'égard des djihadistes présents au Levant. Donc, en réalité, il y a aussi un risque sécuritaire qui découle de ce lien. Quel a été le rôle, Bayram Balche, de la Turquie dans le processus de réislamisation, c'est peut-être pas le bon mot, mais la réutilisation de l'islam dans la reconfiguration identitaire de cette Asie centrale. Quelle influence Ankara a-t-il joué?
Alors, je répondrai en deux temps. D'abord, pour ce qui est du rapport de la Turquie à l'islam dont on est central, et ensuite, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les liens ambigus entre la Turquie et Daesh, qu'on a pu observer effectivement au Moyen-Orient. Pour la première partie de la question, donc la Turquie en Asie centrale, effectivement, on a pu constater qu'après l'Union soviétique, il y avait une espèce de compétition, de rivalité, de course entre différents États musulmans, Arabie Saoudite, Turquie, Iran, aussi l'Inde, on oublie, c'est-à-dire la péninsule, le sous-continent indien, qu'en fait, on se disait, l'idée était que l'Asie centrale allait redevenir enfin libre, indépendante, musulmane, et qu'il fallait partir dans cette compétition pour imposer sa propre façon de voir l'islam. Et à la Turquie, à l'époque, paradoxalement, dans un pays séculier, laïque, kémaliste, en tout cas à l'époque, on a été un peu surpris de voir que la Turquie était aussi très active dans ce marché, dans cette compétition, dans ce désir de marquer l'islam d'Asie centrale. En fait, c'est un faux paradoxe parce que la Turquie essaye aussi d'avoir une certaine soft power, une certaine influence. Elle a accompagné, elle a réislamisé peut-être dans une certaine mesure, mais je dirais qu'elle a accompagné les sociétés locales à redécouvrir, à pratiquer, à créer une nouvelle forme d'islam pour qu'il soit compatible avec les États en place. Et s'est retrouvé en compétition tout ça avec l'Arabie Saoudite, un peu avec l'Iran, mais pas beaucoup l'Iran, parce que l'Iran étant un pays chiite, il n'a pas été très influent dans une nation centrale largement sunnite. Mais en fait, on peut dire que 30 ans après l'évolution, après la fin de l'Union soviétique, on peut dire qu'effectivement, la Turquie a été assez active, dans le sens où la Russie a leur donné la possibilité de construire des mosquées, des facultés de théologie, former des nouvelles élites.
Notamment à travers le fameux mouvement Gulen, du nom de cet imam intellectuel réfugié aux États-Unis, qui est un ancien allié d'Erdogan et qui est devenu son principal ennemi. Et c'est là aussi le paradoxe, c'est que c'est par le truchement de ce mouvement-là que s'est opérée en grande partie cette influence, et sur laquelle aujourd'hui Erdogan n'a plus la main, puisqu'il la combat au sein même de la Turquie.
Alors tout à fait, en Asie centrale, vous aviez d'abord l'État turc comme acteur principal d'accompagnement de l'islam en Asie centrale, mais vous aviez aussi des mouvances privées, des mouvances Nakhchibendi, Süleymancı et Gulenist. Le mouvement du Gulen était un parmi tant d'autres, mais que cette mouvance Guleniste, elle était complexe, elle est complexe, elle ne faisait pas que véhiculer un discours islamiste, mais aussi la turcité, l'éducation, le support de la Turquie. Mais le conflit qui est entre les deux, en 2013 et 2016, à cause de leur participation au coup d'État, fait que maintenant la mouvance n'est plus du tout présente en Asie centrale, elle a été complètement éradiquée dans le cadre d'une coopération, d'une imposition de la part de la Turquie de pression sur les pays pour qu'ils mettent fin à ce mouvement, donc il n'y a plus grand-chose. Mais je vais répondre en fait à la deuxième partie de votre question. Tout à l'heure, vous faisiez référence au fait que Erdogan se présente comme le chef de l'islam dans le monde, le protecteur des musulmans. Effectivement, mais c'est une nouvelle tendance. Là aussi, je pense que, étant donné que Erdogan est au pouvoir depuis 18 ans, donc en 18 ans, il a eu le temps d'adopter plusieurs discours, plusieurs attitudes en fonction du contexte, en fonction de ses besoins aussi électoraux et électoralistes et de sa politique étrangère, c'est qu'en fait, depuis quelques années, effectivement, il y a le sentiment en fait qu'il est en rivalité avec l'Arabie Saoudite pour se présenter comme le protecteur des musulmans qui sont opprimés dans le monde. Mais là aussi, la Turquie le fait de différentes manières. Elle a été un peu la protectrice des Rohingyas. Elle a été parmi les pays musulmans qui sont le plus mobilisés pour les aider. Elle l'a été pour les Ouïghours, mais plus maintenant, parce que la réelle politique veut que la Turquie ne peut plus se mettre en conflit avec la Chine, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle est, d'un point de vue économique, elle a besoin de la Chine. Donc sur la question Ouïghour, la Turquie est très silencieuse, alors que même Erdogan, pendant quelques temps, il avait même parlé de génocide perpétré par les Chinois contre les Ouïghours. Il ne le fait plus. Et pour répondre d'une manière beaucoup plus explicite à votre question sur les liens ambigus entre la Turquie et Daesh, mais là, c'est un phénomène, c'est une question très complexe, dans le sens où effectivement, l'implication de la Turquie dans la crise syrienne, le fait qu'il y a un embourbement, et en fait, on a le sentiment que la Turquie soutient Daesh. Mais ça, c'est vraiment très discutable, dans le sens où rien, il n'y a rien, aucune ressemblance entre l'islam de Erdogan, l'islam de Turquie et l'islam préconisé par Daesh. Vraiment, c'est deux choses complètement différentes. L'islam turc est très marqué par le sophisme, le mysticisme qui vient d'Asie centrale, et les Turcs sont originaires d'Asie centrale. Alors que l'islam de Daesh est beaucoup plus marqué par le salafisme, le djihadisme, un peu de wahhabisme. Ouais. Et dans ce sens, tous les opposent. Mais l'espèce de coopération qu'on a pu voir, c'était plutôt dans un cas de désespoir, on lisait et pour pouvoir faire face à des soucis sécuritaires. Effectivement, il y a une certaine ambiguïté de la Turquie vis-à-vis du Daesh, mais c'était pour mettre en difficulté le PKK qui s'était renforcé à la faveur de la crise syrienne et qui mettait en difficulté l'État turc dans ses régions à l'est et notamment tout le long de la frontière avec la Syrie.
C'est entendu, Bayram Malche, précision faite. Sylvia Serrano, ce qui est certain, c'est que cet islam globalisé, ce djihadisme porté par Daesh n'est pas apparu ex nihilo, pas apparu d'un coup dans cette région d'Asie centrale, dans ces espaces post-soviétiques. Essayons peut-être de refaire un peu le parcours. On l'a dit, on a eu, après la chute de l'URSS, un recours de plus en plus fort de l'islam dans la reconfiguration des identités de la région. Essayons de voir justement comment ça s'est fait. Il semble que c'est en Ouzbékistan que la question de ce recours à l'islam va être la plus rapidement mobilisée. Est-ce que vous confirmez, Sylvia Serrano, et pour quelles raisons là-bas ?
Alors, à l'effondrement de l'Union soviétique, toutes les sociétés de ces nouveaux États indépendants essaient de se réinventer en État-nation indépendant. Et évidemment, la religion, l'islam dans les sociétés majoritairement musulmanes va être un fondement de ces tentatives de réinvention, de même que l'orthodoxie, par exemple, dans les sociétés majoritairement orthodoxes. Alors, en Asie centrale, oui, en Asie centrale également, en raison d'évolutions au long cours que l'on voit à partir des années 1970 et des communications qui existent déjà et des relations, des contacts qui existent déjà entre l'Asie centrale et ses voisins. Donc effectivement, il y a à cette époque, qui est aussi une époque où qu'on espère être le début d'une période de démocratie démocratisation, également la constitution de nouvelles organisations, de nouveaux partis politiques, y compris donc le parti de la Renaissance islamique. Donc on est dans une, au tout début des années 90, dans un mouvement, disons, tous azimuts, de recomposition des scènes politiques et de l'assise politique des sociétés. Et puis ensuite, on a des évolutions qui vont être très différentes selon les lieux, et notamment dans la région sur laquelle j'ai le plus étudié, à savoir le Caucase du Nord, on a des mouvements indépendantistes, notamment en Tchétchénie, et qui débouchent qui échouent et qui vont aboutir à une guerre extrêmement sanglante quand l'armée russe recomposant cherche à empêcher par des moyens militaires de ces territoires d'échapper à son emprise. Au départ, la guerre de Tchétchénie est une guerre d'indépendance. Aspiration à l'indépendance d'une partie de la société tchétchène. Et la montée en puissance de groupes qui vont s'appuyer sur l'islam politique et qui vont s'affilier à cet islam mondialisé, transnational, global, l'émergence, elle est liée à la guerre et c'est la cause de la guerre. Donc on a en général tendance à comprendre la réaction des États comme étant une réponse des États, une réaction des États à une radicalisation islamiste, alors que si on regarde ce qui s'est passé dans cet espace, c'est exactement le contraire. Mm-hmm. C'est-à-dire la montée en puissance de groupes islamistes violents est le produit de la guerre. Mm-hmm. Le projet nationaliste échoue, et à mesure que ce projet nationaliste échoue, et à mesure que la résistance tchétchène indépendantiste perd la guerre, on va avoir des transformations des modalités de la guerre elle-même, de la violence, et une transformation des projets politiques avec une atomisation des projets politiques et une transformation de la guerre en guérilla. Et donc, il y a plusieurs étapes, et au final, ce qui reste de la résistance tchétchène va se transformer en un projet de régional à l'échelle du Caucase du Nord, de l'ensemble du Caucase du Nord, et c'est le projet de l'émirat du Caucase, hein, et en 2007. Et cet émirat va également échouer dans ses projets politiques, et les miettes qui restent de l'émirat vont porter allégeance à Daesh en 2015. Donc sur la Tchétchénie, la chronologie, elle est parfaitement, parfaitement claire.
Alors si on remonte justement avant la Tchétchénie, Sylvia Serrano, on entend ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire cette idée qu'au fond c'est la guerre qui va produire cette convocation de cette islamisation d'une certaine manière du conflit, et avec l'utilisation de cet islam globalisé. Mais avant cela, on a eu justement la construction, Bayram Baltche, de tout cela. Et là, il faut remonter un peu peut-être avant, du côté de l'Ouzbékistan, du côté du Tadjikistan, où on avait aussi des formes un phénomène djihadiste, mais qui, lui, n'était pas encore globalisé. Comment ça se passe? Je disais tout à l'heure que ça avait commencé du côté de l'Ouzbékistan. Il semble qu'effectivement, il y ait eu de ce côté-là un recours de l'islam dans la reconfiguration identitaire peut-être plus rapide que dans d'autres pays. On pourrait essayer de comprendre pourquoi. Bayram Baltche, je vous passe la parole, parce que je sais que vous avez écrit un article sur ce sujet en particulier dans Orient 21. Et puis ensuite, il va y avoir un transfert du côté du Tadjikistan, parce que on est dans un pays qui est dans une guerre civile et qui va transformer justement ce mouvement-là. Vous pouvez nous expliquer ce moment-là qui est très important pour comprendre la mutation vers cet islam globalisé que vient de nous décrire Sylvia Serrano?
Je pense que pour mieux comprendre les choses, j'irai même plus en avant par rapport à la date que vous avez mentionnée, c'est-à-dire le début, la fin de l'Union soviétique en Asie centrale et dans la vallée du Fergana. J'irai même avant, c'est-à-dire que j'irai même plus au sud, en Afghanistan. Et quand on parle de djihad, de djihadisme, on oublie un autre terme qui est très proche sémantiquement, qui vient de la même racine arabe, djihad, donc mujahidin. Les mujahidin qu'on a connus, qu'on a admirés en Occident, en Afghanistan, parce qu'ils combattaient l'ennemi, l'Union soviétique, dans un contexte de guerre froide. Et en fait, on oublie à quel point tout a commencé par là, en fait. C'est-à-dire que Ben Laden, il a fait ses classes d'abord en Afghanistan avant de devenir anti-occidental. Mais c'est à l'époque, c'est une époque où, au contraire, l'Occident soutenait ce phénomène de Mujahideen. Je ne dis pas djihad, mais de Mujahideen. Il y avait une alliance entre l'Occident et ces Mujahideen. Ils ont été soutenus, armés, financés par la CIA et probablement aussi par des Européens qui ont combattu l'Union soviétique. Ensuite, avec la chute de l'Union soviétique, en fait, il y a une espèce de changement, de mutation de ce phénomène de Mujahideen qui est devenu djihadiste et qui, pour le coup, a changé d'ennemi. L'ennemi, c'était plus l'Union soviétique qui n'existait plus. C'est devenu l'opposition, c'est devenu le pouvoir en place, c'est devenu l'Occident qu'on a eu tendance à interpréter, à voir comme une espèce de protecteur de ces régimes autoritaires qui étaient en place en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, etc. Et en Occident, on avait aussi, je dirais, intérêt à les soutenir parce qu'on avait le sentiment en fait que protéger ces régimes en place, c'était aussi une façon de protéger nos banlieues contre ces menaces terroristes. Et effectivement, c'est dans la vallée de Fergana, dans une toute petite ville qui s'appelle Namangan, que les premières germes de ce djihadisme décentral ont été lancés avec un mouvement, une nébuleuse qui s'appelait Adolat, qui veut dire la justice. Et au départ, tout ce qu'ils voulaient, en fait, c'était une espèce de justice locale, de réforme locale dans la vallée de Fergana. Et entrer en confrontation avec le pouvoir séculier, ultra-séculier, autoritaire de l'islam Karimov, le phénomène s'est radicalisé et ça a créé ce qu'on a appelé, historiquement connu, le mouvement islamique d'Ouzbékistan. Donc à partir de cette nébuleuse, il y a le mot islamique d'Ouzbékistan qui s'est créé dans la vallée de Fergana, qui s'est renforcé au Tadjikistan, qui était facile parce qu'il y avait une guerre civile. Et comme Sylvia peut vous le démontrer, c'est un phénomène de guerre qui renforce aussi, qui va aggraver le phénomène d'islamisation. Et en fait, le phénomène de guerre civile au Tadjikistan entre 92 et 97 va permettre au mouvement islamique d'Ouzbékistan de se développer, de se renforcer, d'attaquer certains régimes d'Asie centrale. Et ensuite, avec la paix revenue au Tadjikistan, mais il va prendre refuge dans un autre pays où il y a le chaos, comme c'est souvent le cas, c'est l'Afghanistan. En Afghanistan, il s'installe, et c'est au parti de l'Afghanistan qui s'est renforcé, qui est devenu une nébuleuse, une mouvance mondiale internationale. Mais je dirais qu'à partir de l'Afghanistan, à force d'être en Afghanistan, il a été coupé de ses racines centra-asiatiques parce qu'il a été absorbé par les talibans et par Al-Qaïda. Et de ce fait, il a changé d'agenda pour s'attaquer non plus au régime impie, comme il le dit, d'Asie centrale, mais pour s'attaquer aussi à la présence militaire américaine, à l'Occident, à tout ce qui représente intérêt occidental. Et c'est aussi comme ça que dans ce cadre-là, on a pu trouver, je crois, des attaques organisées par le mouvement, par des djihadistes ouzbeks du mouvement islamique d'Ouzbékistan en Allemagne, et je crois même qu'aux États-Unis il y avait un attentat au cours d'un marathon, là aussi c'était lié à des ouzbeks qui s'étaient radicalisés.
Et puis j'indique peut-être pour les auditeurs, Bayram Baltcheux, que cette fameuse vallée de Fergana dont vous parliez, qui est à cheval sur l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, c'est pas n'importe quel endroit. Hein. Il faut rappeler que c'est là, au 8e siècle, qu'avait eu lieu une célèbre bataille, la bataille de Talas en 751, qui avait marqué le recul de l'influence chinoise et l'extension de la sphère d'influence arabe. Donc c'est une zone qui est historiquement, culturellement, religieusement très marquée. On est avec vous, Bayram Baltcheux. Et vous, Sylvia Serrano, dans cette série consacrée à l'espace post-soviétique de Grozny à Douchanbé, l'ombre de l'islamisme. On va poursuivre justement avec une figure particulière qui nous dit beaucoup de la manière justement dont ont évolué ces conflits. On va parler d'un haut gradé tadjik qui est devenu tout simplement le ministre de la guerre de Daesh.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je ne sais pas où est mon fils. Je n'en ai aucune idée. Un mois déjà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais rien. Un militaire est venu. Il m'a posé des questions. Ça fait un mois déjà. Je ne sais rien du tout.
On a retrouvé le chef des forces spéciales du Tadjikistan, le colonel Gulmurod Halimov, âgé de 40 ans.
Écoutez, bande de chiens, président, ministre, si vous saviez combien de frères attendent ici, au califat, pour entrer au Tadjikistan et y rétablir la charia.
Alors, en 2015, un haut gradé de l'armée, chef des forces spéciales du Tadjikistan, porté disparu depuis plusieurs semaines, réapparaît en Syrie dans une vidéo dans laquelle il s'adresse aux musulmans d'ex-URSS qui l'invitent à le rejoindre dans son combat. Bonjour, Gulia Mirzoeva.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes réalisatrice et c'est vous qui avez produit ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait, Asie centrale, l'appel de Daesh, qui a été diffusé sur Arte en septembre dernier. On peut comprendre, Gulia Mirzoeva, que des jeunes musulmans qui vivent dans la misère, qui sont discriminés dans leur pays ou même en Russie où ils sont partis pour travailler, décident de s'engager dans les rangs de l'État islamique. On peut le comprendre. Bayram Baltche nous rappelait tout à l'heure l'importance de ce déracinement social et culturel dans justement cet engagement dans Daesh. Mais dans le cas de Gulmurod Kalimov, un haut gradé, respecté, avec un salaire correct, comment a-t-il pu décider de faire défection pour passer à l'ennemi?
Donc c'est un film qui était réalisé par moi et produit par Serge Gordet. C'est une maison de production Tournoir.
On mettra les informations, c'est pas le sujet. On mettra les informations, toutes les informations qu'il faut. Je vous en prie.
Voilà. Donc Gulmurod Kalimov était vraiment un haut gradé. Il y a plusieurs explications de sa défection. D'un côté, probablement, il est arrivé à la limite de sa carrière. Et vu que c'est un pays autoritaire et sa carrière était directement liée au président du pays, et il y avait un conflit qui a commencé peut-être, il y a un conflit qu'il y avait entre lui et la famille du président. Et là, il n'était pas du tout, il comprenait qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de futur. Et c'est comme ça que il était quand même repéré par les recruteurs. Il a déjà commencé à un moment donné de se tourner vers l'islam. Là, il a commencé à prier. Il a bu de la vodka et fumé des cigarettes avant, mais vers les années 2000, début 2000, il a commencé à prier, à s'intéresser à l'islam, etc. Donc, c'était un chemin idéologique assez long. En fait, en général, le chemin idéologique est assez long, mais c'est le recrutement qui est très, 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 ça se passe très vite. En 3 à 6 mois, on recrute les gens, on est en brigade assez vite. Et donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième, voilà, il était exaspéré par la politique du gouvernement qui était quand même... elle profanait les traditions musulmanes et le mode de vie de ses compatriotes tadjiks. On a commencé à couper des barbes, on a commencé à interdire le porter de voile. Et donc, ça allait trop loin.
Oui, il considérait qu'il y avait au fond une discrimination systémique à l'égard des musulmans. Mais là encore, on arrive au sein d'un paradoxe, Gulia Mirzoeva, qu'il va falloir éclairer. Parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'on a à la fois un gouvernement tadjik qui déploie une politique clairement islamophobe. On arrête les femmes dans la rue pour les emmener au commissariat simplement parce qu'elles portent le voile. On arrête les hommes parce que la barbe est trop longue. Mais dans le même temps... on a un président, en l'occurrence Emomali Rahmon, qui s'affiche à la Mecque pour bien montrer qu'il est un bon croyant. Comment comprendre ce paradoxe?
Je pense que le pouvoir tadjik, au moment de quand donc le pouvoir tadjik qui essaie de créer un État tadjik, hein, qui est État quand même, il y a 100% des gens sont musulmans et ils croient en Dieu. Ils vous voient en permanence. Ils n'arrivent pas à trouver les bonnes solutions pour introduire l'islam dans la vie de ce pays. Et en fait, cette louvoiement est, finalement, cela permet de légitimer leur pouvoir, cette histoire de lutte contre l'islam, parce que il faut absolument trouver, il fallait trouver un ennemi qui faisait peur pour ne pas partager ce pouvoir-là. Et donc l'islam était une bonne, c'était une bonne solution pour l'État, mais en même temps. D'un côté, donc, le Tadjikistan, le pouvoir de Tadjik, le gouvernement devait absolument plaire à l'Occident, parce que donc, en luttant contre l'islam, contre l'islamisme, contre le radicalisme, on montre qu'on est contre tous cette menace terroriste mondiale. Et de l'autre côté, il y a quand même tous les pays donc de l'Arabie Saoudite et Qatar qui financent aussi le Tadjikistan. Donc ça, ils sont entre les deux. Et c'est très très difficile de trouver de bonnes résolutions. Et donc d'un côté ils interdisent les barbes et des voiles, et de l'autre côté le président il va à la Mecque. Donc il construit une plus grande mosquée de l'Asie centrale qui était ouverte il y a je pense quelques semaines. Donc ça fait mal disons en voyant ça, parce que ça fait mal. Parce qu'il n'y a pas de pensée, véritable pensée, dans ce pays où les pensées, globales, comment faire pour que l'islam soit intégré dans la vie et dans la... comment intégrer l'islam dans laïcité, vous comprenez
ce que je comprends parfaitement. Et évidemment, ce mal que vous exprimez, que vous ressentez, on le comprend aussi parce que vous êtes né au Tadjikistan, ce qui explique aussi évidemment que cela vous touche personnellement. Il y a un point sur lequel aussi je voudrais vous entendre, parce qu'il y a une interview extrêmement intéressante dans votre documentaire d'une sociologue, qui est une spécialiste tadjik de l'islam, qui s'appelle Saoudat Olimova, et elle vous raconte que pour beaucoup de jeunes musulmans tadjiks qui n'ont connu qu'un islam local, qui partent travailler en Russie parce qu'ils sont extrêmement nombreux, c'est un véritable choc que de se retrouver baigné dans cet islam global. Racontez-nous en quoi ce déracinement des valeurs religieuses locales nous éclaire sur ce basculement, sur cette radicalisation.
Donc il faut commencer par rappeler à nos auditeurs que Tadjikistan c'est un pays indépendant depuis plus de 25 ans, mais c'est un pays extrêmement pauvre et il n'y a pas de travail pour les jeunes. Ils vont travailler par millions des jeunes d'Asie centrale, ils vont travailler par millions en Russie. Et donc c'est un phénomène de migrants qui travaille en Russie, et en quittant Tadjikistan, je parle de Tadjik, le migrant laisse derrière lui la communauté locale, le contrôle de la famille, le contrôle de la communauté, et il devient un individu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est arraché de son milieu habituel, et il devient un individu au grand marché, donc sur énorme marché du travail russe. Et en Russie, il est donc... la condition de travail, bien évidemment, est très, très difficile. Et là, il va quand même à une mosquée. Dans son village, il allait dans un petit mosquée, ou même il allait chez son voisin qui était Mollah. Mollah Khatib était son grand-père, par exemple. Il expliquait comment faire, comment vivre. Mais en arrivant à Moscou, en Russie, il va dans un mosquée où les gens parlent les langues qu'il connaît pas. Et donc, il devient vraiment le proie de tous les prêcheurs qui vont et qui font de ces gens-là les radicalistes. Et 80% des gens qui étaient, les 80% de tous les Tadjiks qui se sont retrouvés en Syrie ont été embrigadés en Russie. Voilà.
Ouais, donc on voit combien ce déracinement est évidemment un facteur essentiel. Un tout dernier mot peut-être, Goulia Mirzoeva, parce que on évoquait au début de notre échange cette figure, ce haut gradé tadjik qui est devenu ministre de la guerre de Daesh, Gulmurod Khalimov. On sait où il se trouve aujourd'hui?
Vous savez, Gulmurod Khalimov, c'est un personnage très intéressant comme personnage, parce que il est disparu. Personne n'a jamais parlé de lui dans les médias nationaux, dans les médias d'État. Des bribes de nouvelles, on voyait par-ci par-là. Il devient le ministre de la guerre, silence. Et donc après, soi-disant, on l'élimine. Silence, les Tadjiks n'ont pas reconnu sa mort. Parce que, en général, les gens de Daesh, ils disent à la famille, ils annoncent la mort de leurs combattants, surtout au gradé comme ça. Il était quand même ministre de la guerre après Hashishani, qui était un Tchétchène. Les parents n'ont jamais, la famille n'ont jamais eu de nouvelles de sa mort.
Donc, a priori, il est encore vivant.
Oui, il est considéré comme vivant. Et c'est pour ça, mon film, j'ai fini par la question où il est, en fait. Est-ce qu'il est là, pas loin, en Afghanistan, pas loin de son pays? Est-ce qu'il se prépare pour venir et dire, je vais vous égorger tous? Donc, c'est ça, la question est ouverte.
C'est l'hypothèse la plus probable qu'il est encore en Afghanistan. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si lui, on ne sait pas où il est, en revanche, la famille de Gulmohrod Khalimov a fait l'objet, lui, de la machine répressive tadjik. Hein. Certains membres de sa famille ont été envoyés en prison, vous le racontez, d'autres ont même été tués.
Oui, oui. Donc, ils ont déraciné, ils ont éliminé la famille. C'est comme ça que ce pouvoir se bat contre la mémoire, contre la mémoire collective, contre la vérité, contre tout ça. Donc voilà, on élimine et on parle plus.
Et on finit avec une situation où le Tadjikistan est touché par plusieurs attaques terroristes sur son propre territoire. Vous le raconterez à la fin de votre documentaire. Donc l'objectif initial de Khalimov, il est tristement atteint. Un grand merci, Gulia Mirzaeva, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc le titre de votre documentaire Asie centrale, l'appel de Daesh, qui a été diffusé sur Arte. Et on mettra le nom de son producteur, c'est promis. Merci infiniment. Настрой мой пропал. Я так жду от тебя новостей. С корабля, что на бал. Оковы, оковы. Отпустите. Et un grand merci à nos deux invités, Bayram Balcheu qui était avec nous depuis Istanbul, dont je rappellerai notamment l'ouvrage Renouveau de l'Islam en Asie centrale et dans le Caucase, paru aux éditions du CNRS. Un grand merci également à vous, Sylvia Serrano, d'avoir été avec nous depuis Abu Dhabi. Vous avez notamment participé à cet ouvrage collectif La Tchétchénie, une affaire intérieure, Russe et Tchétchène dans l'étau de la guerre. Toutes les références de vos ouvrages, de vos articles, à retrouver évidemment sur le site de France Culture, sur la page en particulier de Culture Monde. Un tout dernier mot peut-être pour vous remercier, chères auditrices, chers auditeurs, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est un grand bonheur de le savoir et c'est, je crois, aussi très bon signe. Donc je voudrais vous remercier toutes et tous vivement d'être de plus en plus nombreux et puis j'en profite également pour remercier cette merveilleuse équipe qui chaque jour m'accompagne pour produire ces émissions. Je vais les citer, hein, mais Annie Chalandon, Margot Le Ridon, Bertil Bourdon, Nicolas Sendé, j'oublie pas aussi Antoine Dulster. Je pense évidemment aussi à nos réalisateurs Benjamin Hu et Vincent Abouchard, c'est aussi leur travail. Et j'oublie pas les techniciens qui chaque jour font de véritables miracles. Donc c'est aussi grâce à eux. Un grand merci. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis le début de la semaine, Brice, vous nous avez rendu compte d'un certain nombre de parutions comportant des attaques en règle contre la méritocratie. Ces livres ne sont pas parus en français, sauf un, celui de David Goudart, La tête, la main et le cœur, sous-titré La lutte pour la dignité et le statut social au XXIe siècle.
Et oui, je l'avais gardé pour la fin parce que c'est le plus complet et d'une certaine manière le plus radical. Il ne laisse rien de côté. Ni l'épineuse question de l'origine du caractère héréditaire du QI, est-ce que c'est l'affaire de gènes ou l'affaire d'environnement, ni les évolutions prévisibles du marché du travail, nos économies auront-elles des emplois qualifiés à fournir à tous ces diplômés à l'heure de la robotisation et de l'intelligence artificielle? Le type de connaissances prodiguées dans nos universités est-il réellement utile à l'exercice des professions auxquelles ces diplômes donnent l'accès? Pourquoi la massification de l'enseignement supérieur a-t-elle coïncidé avec un ralentissement de la productivité? Et puis surtout, Goudart ne se contente pas de réfléchir à partir des données fournies par la qualité impressionnante de ses lectures. Il interviewe des gens, il s'appuie sur les itinéraires de ses proches, il témoigne aussi à partir de ses propres expériences avec une honnêteté scrupuleuse. Bref, il réfléchit près du terrain. sa critique de la méritocratie est la plus radicale, parce que Goodhart ne se contente pas de mettre en cause les dysfonctionnements du système, le fait que certains élèves de niveau moyen parviennent à intégrer les universités prestigieuses grâce à l'argent et aux relations de leurs parents, anciens élèves eux-mêmes. Sa critique va au-delà de la mise en cause de l'hubris méritocratique des nouvelles élites du diplôme, telles qu'elles sont décrites par Michael Sander, ou encore du manque de représentativité d'une élite politique issue du petit monde des surdiplômés, comme le font Mark Bovens et Hans Schrittwiel. Il interroge le choix de nos sociétés d'avoir, de manière récente et au nom d'excellentes intentions, la mobilité sociale, créé de toutes pièces une nouvelle classe dirigeante, la classe cognitive. Il attaque le caractère monolithique de cette nouvelle élite, sa tendance à converger en masse vers les mêmes métropoles, à partager la même culture, les mêmes modes de vie, les mêmes idées, asséchant du même coup les autres villes de nos pays des talents qui y étaient nés. Or, cette classe cognitive unique, comme il l'appelle, est désormais recrutée à travers un seul canal de sélection, celui des études supérieures. Alors qu'autrefois, par exemple, la classe ouvrière suscitait ses propres élites grâce à l'école du syndicalisme. Comme il l'écrit, il y a des gens qui sont très doués pour passer les examens, sans que cela atteste nécessairement le fait d'une intelligence supérieure, ni surtout d'une capacité quelconque à diriger les autres.
Il y a 20 ans, Brice, les prévisionnistes estimaient que la solution au problème de la délocalisation passait par la généralisation de l'enseignement supérieur. David Goodhart, lui, est en désaccord. Pour quelle raison ?
De plus en plus de diplômés occupent des postes ne nécessitant aucun diplôme et cette tendance est en voie d'accélération. Et en même temps, on manque d'artisans et de soignants. L'université pour tous a été un mythe. Vous ne pouvez pas produire via l'université une élite qui compterait 50% de la population. C'est insultant pour les autres 50%. Tant que 15% des personnes de votre classe d'âge accédaient à l'enseignement supérieur et que vous disposiez d'autres moyens éventuels de gravir les échelons de hiérarchie sociale, c'était acceptable. Mais lorsqu'ils sont 50% à partir pour Londres, Oxford, Cambridge, Bristol ou Warwick et que vous-même vous restez coincé dans votre petite ville, l'humiliation est insupportable. Vous vous sentez laissé pour compte et vous vous vengez en votant populiste. Revenant sur les thèses de son précédent livre, David Goodhart montre comment les valeurs de la classe cognitive, l'ouverture, l'autonomie, la réussite personnelle, l'innovation, ont été imposées à des majorités qui préfèrent l'attachement sentimental à la famille et à la communauté locale, la valorisation de ce qui est familier et sûr, les collectifs stables, comme il dit. Son idéal politique serait d'ailleurs une alliance entre une gauche qui s'attaquerait franchement aux inégalités de revenus et un conservatisme de tendance écologiste qui protégerait les communautés locales, empêcherait notamment l'enlaidissement des paysages et des constructions, préserverait la stabilité sociale et entretiendrait la solidarité. David Goodhart plaide surtout pour que les métiers de la main et ceux du cœur ou du care, comme on dit, contribuent à égalité avec les métiers de la tête, à la direction des affaires. Il n'est pas juste que la finance, les cabinets d'avocats ou de conseils, où l'on produit en définitive très peu de valeur, fournissent les emplois les mieux rémunérés du moment. La crise sanitaire actuelle a démontré que les métiers du soin à la personne et ceux qui permettent la continuité des services essentiels à la collectivité avaient une bien plus grande utilité sociale.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve lundi à l'antenne et demain sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.